Bonjour Alice Baya.
Bonjour.
Aujourd'hui 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants et avec vous, nous avons voulu mettre l'accent ce matin sur ceux qu'on appelle les déplacés climatiques. Ils fuient les effets du changement climatique. Combien sont-ils aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, en tout cas l'année dernière, on a enregistré dans mon observatoire à peu près 32 millions de déplacements uniquement liés aux catastrophes, donc personnes déplacées suite aux cyclones et aux inondations notamment. Et en moyenne, depuis une quinzaine d'années, c'est environ 25 millions de personnes qui sont déplacées chaque année à l'intérieur de leur pays. On n'a pas de données pour les personnes qui franchissent une frontière, mais on sait déjà que c'est un facteur de déplacement qui est 2 à 3 fois supérieur que les conflits.
Oui, ça veut dire que rien que pour les déplacements internes, donc on parle bien d'une personne qui change de région à l'intérieur de son pays, c'est 32 millions. On n'a pas du tout d'idée du nombre de migrants dans le terme le plus couramment employé, c'est-à-dire quelqu'un qui change de pays.
Alors, pour l'heure, on n'a pas de données, mais ce que l'on sait, c'est que en fait, le facteur climatique a depuis toujours en fait été un facteur de migration.
Oui.
Donc aujourd'hui, déterminer chez quelqu'un, par exemple, qui va quitter l'Afrique subsaharienne pour changer de pays, voire essayer de venir en Europe, si cette personne, dans bien des cas, va d'abord migrer parce qu'elle a perdu ses moyens de subsistance ou parce que la sécheresse a détruit ses cultures, on voit bien que dans bien des cas, déjà aujourd'hui, les facteurs économiques et climatiques sont très mêlés et assez souvent difficiles à distinguer.
Oui, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui prime en quelque sorte et qu'est-ce qui déclenche la décision de départ. Chiffre en augmentation. Exactement. Vous nous le dites pour ces déplacés climatiques, jamais été aussi nombreux, ça c'est une évidence.
Oui, alors en tout cas depuis qu'on est capable de collecter des données sur ce phénomène-là, c'est-à-dire depuis à peu près une quinzaine d'années, on observe effectivement que chaque année les catastrophes ont tendance à être toujours plus nombreuses, toujours plus intenses, et donc amènent à un risque de déplacement aussi toujours plus important.
Oui, ces déplacés, ils fuient les cyclones, les inondations, la sécheresse, ça veut dire des réalités qui sont tout de même très différentes.
Oui, alors on observe effectivement des disparités régionales assez importantes. On voit bien que l'Asie du Sud, l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine sont des régions particulièrement touchées. L'année dernière, par exemple, le Pakistan, qui a été victime d'inondations exceptionnelles, a connu à lui seul 8 millions de déplacements suite à ces inondations. C'était du jamais vu. Mais on voit aussi que de plus en plus, toutes les régions du monde sont touchées. Même en France, l'année dernière, on a enregistré 45 000 évacuations en raison des feux de forêt et des inondations. Et chaque année, on voit que l'Europe, les États-Unis, le Canada sont eux aussi de plus en plus touchés.
Oui, le message qui est souvent passé, c'est qu'en fait, tout le monde est concerné. Ou que ça concernera tout le monde à court ou moyen terme.
Exactement. C'est un phénomène global qui reflète aussi un peu les inégalités en matière d'exposition face au changement climatique. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous également touchés, mais on l'est tous d'une manière ou d'une autre.
Alice Baya, le mois dernier, l'Australie a conclu un accord avec l'archipel des Tuvalu. Ses habitants pourront bénéficier de droits spéciaux pour s'installer et travailler en Australie. L'accord prévoit l'accueil de 280 réfugiés climatiques chaque année. Est-ce que ce genre de solution est une bonne idée? Est-ce que c'est ça qu'il faudrait pérenniser, disons, ou imaginer pour les prochaines années face aux risques de plus en plus croissants?
Oui, alors je dirais que c'est une solution parmi d'autres. Il y en a beaucoup d'autres aujourd'hui qui sont envisagées. Il y a de plus en plus de pays qui mettent aussi en place, par exemple, des visas humanitaires pour permettre aux personnes qui sont victimes de catastrophes d'aller dans le pays voisin. Vous avez de plus en plus de pays qui réfléchissent aussi à des accords autour de la migration de travail pour permettre à des personnes, un petit peu comme l'accord entre l'Australie et Tuvalu. Je dirais que ce type de politiques sont bonnes à partir du moment où il faut aussi quand même regarder un petit peu dans les détails quelles sont les conditions aussi qui sont mises en place par ces politiques, de quelles sont les personnes qui vont être capables de migrer, parce que si ce ne sont par exemple que des hommes en âge de travailler mais qui ne peuvent pas venir avec leur famille, ça peut aussi poser d'autres problèmes en termes de séparation des familles, etc. Donc oui, c'est une solution, il y en a d'autres, et je pense qu'il faut de toute façon voir un palette, enfin une une palette de solutions, parce que les types de migration liés au changement climatique vont être extrêmement variés. On va parler de déplacements parfois temporaires, parfois de plus longue durée, sur de longues distances ou de plus courtes distances. Et pour l'ensemble de ces migrations, il va falloir avoir des politiques ciblées et qui vont permettre de répondre à l'ensemble des besoins de ces populations.
Et est-ce qu'on peut chiffrer le nombre de déplacés climatiques à l'horizon 2050, si on se projette dans les 25 prochaines années? Est-ce qu'on a un chiffrage, une estimation disponible?
Oui, alors la Banque mondiale a produit un chiffre il y a 2-3 ans, et la Banque mondiale estime à environ 218 millions de personnes qui vont migrer, là encore une fois, à l'intérieur de leurs frontières, donc on ne parle pas de migration internationale, mais à horizon 2050. Donc c'est une estimation. Je pense qu'il faut aussi...
Donc c'est quasiment 10 fois plus qu'aujourd'hui, hein?
Oui, c'est ça. Mais après, ce que dit la Banque mondiale aussi, c'est que si on met en place des politiques d'atténuation et d'adaptation suffisamment ambitieuses, ce chiffre peut être réduit de 80%.
Ouais. Est-ce qu'on a avancé sur ce dossier, enfin sur ce dossier de manière directe ou indirecte, lors de la COP28 à Dubaï?
Alors les questions de migration, elles ont été abordées à Dubaï, bien évidemment ça n'a pas été le sujet principal, mais on voit que les textes qui ont été adoptés, notamment pour le bilan mondial et aussi la création de ce fonds sur les pertes et dommages, la question des migrations y est reconnue, c'est-à-dire que le fonds sur les pertes et dommages va permettre, quand il sera alimenté, de financer des activités pour venir en aide aux populations qui sont déplacées. Donc c'est une première avancée de mon point de vue. Et le bilan mondial reconnaît aussi la nécessité et encourage les États à mettre en place des politiques pour venir justement encadrer et répondre à ce phénomène croissant de déplacement.
Alice Bailly, encore quelques mots. On parle de déplacés climatiques ou de réfugiés climatiques, mais il n'y a pas de définition juridique derrière ces termes. Est-ce que ça pose un problème concret?
Alors non, effectivement, il n'y a pas de définition juridique, c'est-à-dire qu'on ne parle pas aujourd'hui de réfugié climatique.
Il n'y a pas de statut juridique.
Il n'y a pas de statut juridique. Le réfugié climatique dans le droit international n'existe pas. Après, il y a des discussions pour justement apporter éventuellement un statut à ces personnes. Aujourd'hui, il faut quand même être honnête, on est dans un contexte politique qui, de mon point de vue, n'est pas nécessairement favorable à la création d'une nouvelle catégorie juridique pour permettre à des personnes de venir largement en Europe
ou en Occident en général. Merci Alice Bailly, coordinatrice de politique à l'Observatoire des situations de déplacement interne.